Merci beaucoup à votre équipe de diplomates ou de futurs diplomates de son invitation. Pardon pour ma voix un peu éraillée, mais je sors d'une mauvaise grippe. Et merci beaucoup à chacune et chacun d'entre vous du temps que vous prenez pour cet échange. Vous avez bien voulu rappeler quelques-unes des étapes de ma vie publique. J'ai été orienté longtemps vers des enjeux nationaux ou territoriaux. J'ai eu la chance de présider un département, la Savoie, pendant presque 20 ans. D'y organiser d'ailleurs les derniers Jeux Olympiques que la France a accueillis sur son territoire en 92 à Albertville, 10 ans de boulot pour ces Jeux, qui est aussi une dimension internationale. Et puis j'ai décidé de renforcer le fil bleu de mon engagement politique de gaulliste et européen en faisant ce que peu d'hommes politiques ou de femmes politiques font, c'est-à-dire de consacrer du temps à la construction européenne, sans cesser d'être patriote. Et donc voilà pourquoi j'ai, en 99, préféré être commissaire européen une première fois. Et voilà aussi pourquoi, en 2007, j'ai dit au président de la République, qui m'avait nommé ministre de l'Agriculture et de la Pêche, qu'au bout de 2 ans, je voudrais revenir à Bruxelles. Je me suis présenté donc aux élections européennes pour avoir cette légitimité-là. Et ensuite, j'ai été nommé commissaire européen en charge d'un secteur qui n'a rien à voir avec la diplomatie, la sécurité, encore que, qui est celui de la régulation financière. J'ai donc eu pendant les 5 dernières années la charge d'être l'ouvrier, j'espère qualifié, ou l'ingénieur de la nouvelle architecture de régulation financière européenne pour les 28 pays de l'Union européenne. Et ça s'est traduit par ma proposition de 41 lois de régulation, de telle sorte que aucun acteur financier, aucun produit financier, aucun secteur financier n'échappe à une régulation publique et à une supervision efficace, et qu'on en finisse avec ce règne de ce que j'appelle l'ultralibéralisme, la dérégulation, le démantèlement de toute forme de gouvernance mondiale. J'ai donc reconstruit pendant 5 ans, pièce par pièce, jusqu'à y compris l'union bancaire, cette architecture, en même temps que les Américains le faisaient de l'autre côté, dans le cadre d'un agenda international qui a été créé en 2009 au cœur de la crise financière. Je dis cela parce que cette crise financière, elle a beaucoup fait de dégâts aux États-Unis, d'abord, où elle est née, en Europe, où elle s'est amplifiée et propagée en s'appuyant sur nos propres faiblesses. Je serai prêt à y revenir selon vos questions. Elle a cassé la croissance et nous n'en sommes pas encore remis. Les pays européens s'en remettent plus ou moins rapidement ou plus ou moins lentement selon leur muscle, la capacité qu'ils ont eue avant la crise de se réformer, de muscler leur économie. On voit bien que les pays du Nord ou l'Allemagne s'en sont mieux sortis déjà que nous-mêmes ou les pays du Sud. Mais cette crise, elle a eu beaucoup de conséquences aussi dans le reste du monde, en perturbant les marchés, en créant de la volatilité, y compris sur des marchés de matières premières. C'est pour moi la spéculation. J'aime pas beaucoup la spéculation, mais celle que je considère la plus insupportable, c'est celle qui touche les matières premières, l'énergie et l'alimentation. J'ai d'ailleurs essayé de réguler et de créer un cadre aussi pour limiter cette spéculation qui a provoqué ou qui peut provoquer des famines ou des problèmes graves dans les pays les plus déshérités, notamment en Afrique ou dans les Caraïbes. Et donc, quand on parle de pauvreté, quand on parle de misère, quand on parle d'économie qui est cassée, on voit bien que, enfin, je pense que vous voyez bien qu'on donne du matériau, des raisons à tous ceux qui exploitent la misère, qui s'en servent à des fins idéologiques pour propager leur thèse. Et donc, moi je pense que la misère, partout où elle est, parfois très près de nous ou parmi nous, dans les quartiers ou dans les campagnes, elle a les mêmes conséquences. Les gens, quand ils n'ont pas de quoi manger, quand ils n'ont pas d'avenir pour eux-mêmes ou pour leurs enfants, ils partent. Ils ne partent jamais par plaisir, mais ils partent. Ils partent de la campagne vers les villes, ils partent des pays d'Europe centrale vers l'Europe de l'Ouest, ils partent d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne vers l'Europe comme un Eldorado. Et donc tout cela crée une situation géopolitique extrêmement tendue. J'ai dit un jour à la tribune, lorsque j'ai été ministre des Affaires étrangères en 2004-2005, J'ai participé, comme tous les ministres le font chaque année, à la session annuelle des Nations Unies, et j'ai eu l'honneur de parler à la tribune donc de la France quelques minutes ou quelques heures après M. Bush, qui était venu faire un discours sur la sécurité dans le monde. On sait d'ailleurs ce qu'il entendait par la sécurité, puisqu'il avait lui-même déclenché la guerre d'Irak avec les résultats que l'on connaît. Et je me suis permis de dire au nom de la France une phrase que je pense profondément et que je crois toujours juste. J'ai dit à la tribune des Nations Unies, un monde plus sûr, puisque c'était le thème ou l'ambition de Bush, sera d'abord un monde plus juste. Voilà ce que je pense. Et donc j'ai, tout au long de ma vie publique, essayé de travailler à cette idée de la justice localement, nationalement et au plan européen. Et c'est aussi avec ces idées-là que j'ai travaillé depuis 5 ans, ou que je travaille aujourd'hui, tout en étant conseiller d'État, auprès de M. Juncker, une journée par semaine, pour l'aider sur les enjeux de sécurité et de défense. Je voudrais... vous avez d'autres occasions d'entendre des ministres français, j'imagine, non, sur la diplomatie française, donc je ne vais pas... et peut-être des ministres plus récents que je l'ai été, mais je voudrais plutôt m'attacher à la dimension européenne, parce que c'est ça, si je puis dire, ma valeur ajoutée, peut-être dans un dialogue comme celui que nous avons aujourd'hui ici, rue d'Ulm. Quand vous regardez les éléments qui constituent notre environnement géopolitique, j'ai mis sur cette feuille de papier 5 éléments dont nous devons tenir compte aujourd'hui. Et dont plusieurs ont été, encore une fois, aggravés ou renforcés par la crise financière. Le premier élément de cette géopolitique, c'est précisément le retour de la grande géopolitique avec, si je puis dire, le retour de l'ours russe, si je puis me permettre cette expression, qu'on avait cru endormi, et qui, à la faveur de ce qui s'est passé d'abord en Europe centrale, tous ces pays qui, par la volonté de leur peuple, se sont libérés de l'empire soviétique, sont venus à la démocratie et ont voulu venir rejoindre l'Europe et l'OTAN, y compris des pays qui, pour être petits, sont très importants pour la Russie. Je pense des pays baltes, qui étaient, il y a quelques années, vous le savez, des provinces russes, ce qui n'était pas le cas de la Pologne ou de la Hongrie. L'ours russe est là. Il veut être respecté, ne respecte pas toujours les autres, mais c'est pour moi le premier élément important parce que c'est le plus proche. Une Russie qui n'est pas un partenaire pour l'Europe, comme beaucoup d'Européens l'ont cru, mais qui est un voisin stratégique, et encore une fois, qui veut être respecté. Deuxième élément, l'arc, ce que j'appellerais l'arc d'instabilité à notre frontière sud, tout autour ou tout le long de la Méditerranée. Cette instabilité, elle paraissait assez lointaine, il y a une dizaine d'années. La guerre d'Irak était là, nous y étions opposés, certains Européens l'ont approuvé. C'était la première démonstration éclatante de l'absence de politique étrangère européenne, puisque nous n'avions jamais réfléchi entre nous, Européens, nulle part, et jamais à la manière de faire partir Saddam Hussein. Les Américains, eux, ils y avaient pensé, avec leur méthode, ils ont décidé de le faire partir, et les Européens se sont dispersés, si je puis dire, face à l'engagement américain, comme une volée de moineaux. En tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles je me bats depuis longtemps, et avec un certain succès avec d'autres, pour la création d'un lieu de culture diplomatique commun. Peut-être certains d'entre vous y iront travailler, je vous le souhaite, dans ce service diplomatique européen que dirige Mme Mogherini aujourd'hui, et qui est précisément le lieu où doivent se trouver ensemble les stratèges de tous les pays européens, de la Commission, du Conseil, les experts, les géopoliticiens, pour construire une analyse commune de ces questions que se posent les Européens avant qu'elles ne se posent, si je puis dire, de faire de la prévention et d'avoir des réponses ou des analyses communes. Parce que moi, j'ai observé que quand la crise se produit, qu'on est le dos au mur, c'est impossible d'avoir une position commune si on n'y a pas réfléchi avant. Donc je me suis dit qu'il fallait commencer par le début, même si ça prend du temps, parce qu'on vient d'endroits extrêmement différents, d'histoires extrêmement différentes et parfois tragiquement concurrentes entre Européens. Donc ça prend du temps. Mais nous prenons ce temps et finalement, progressivement, on l'a vu au Kosovo, on l'a vu pour la Serbie, on l'a vu pour l'Iran, les Européens arrivent à se mettre d'accord parce qu'ils ont pris le temps de réfléchir ensemble. En tout cas, cette instabilité du proche du Moyen-Orient, de l'arc méditerranéen, nous paraissait très lointaine. Et pourtant, elle s'est beaucoup rapprochée. Il y a 10 ans, par exemple, je peux raconter ça, j'ai été ministre des Affaires étrangères, c'est à cette époque que nous avons proposé aux Nations Unies la résolution 1559 pour libérer le Liban de la Syrie. Et j'étais ministre des Affaires étrangères, il se trouve que je connais assez bien le Liban, je suis administrateur de l'université Saint-Joseph depuis une quinzaine d'années, donc à Beyrouth, et donc je me suis beaucoup intéressé, à la surprise du président de la République, M. Chirac, qui aussi aimait bien le Liban, ou aimait bien M. Hariri, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais le Liban ne se résume pas à M. Hariri, même si cette famille est très importante et je la connais bien, mais je me suis intéressé au Liban et j'ai beaucoup travaillé avec le président de la République et pour convaincre les Américains, les pays arabes et musulmans, la Russie, à l'époque, qui est membre du Conseil de sécurité, qui a approuvé cette résolution, au terme de laquelle l'armée syrienne et les services syriens se sont retirés du Liban. Mais tout ça, moi je constatais ça dans mes contacts avec les Français ou au Parlement, ça intéressait quelques spécialistes, mais ça paraissait assez lointain. L'Irak, le Liban, objectivement, cet arc d'instabilité s'est infiniment rapproché, sans compter les dangers qu'il provoque à partir de cette instabilité, de ces foyers d'instabilité dans notre propre société, et ce conflit qui n'est plus latent entre sunnites et chiites. Le troisième élément de cette géopolitique auquel les Européens doivent répondre et se préparer, c'est évidemment cet immense continent qui est là, juste à côté de nous, et qui ne changera pas d'endroit, c'est l'Afrique. J'ai le souvenir, dans mon premier mandat de commissaire, d'une rencontre, qui était la première rencontre avec M. Conaré, je crois, à l'époque, c'était le président de l'Union africaine, de la Commission de l'Union africaine. Et il rendait visite, c'était une des toutes premières fois, à la Commission de l'Union européenne. Et nous l'avions reçu, mais à l'époque, on n'était pas... On était 20 commissaires représentant 15 pays, 2 commissaires pour les grands pays. J'étais avec Pascal Lamy comme commissaire français, je ne dis pas de la France. Et je me souviens très bien de ce que Conaré nous avait dit en nous expliquant la situation d'Afrique et en nous expliquant la démographie africaine. Le fait qu'il y aura 1,5 milliard d'Africains, dont la moitié auront moins de 20 ans, dans une vingtaine ou une trentaine d'années. Et je me souviens très bien de ce moment-là, qui était très fort, avec son doigt comme ça pointé sur chacun d'entre nous, il avait fait le tour en nous disant autour de la table ronde « Et si vous pensez, mesdames et messieurs les commissaires, que ces chiffres ne vous concernent pas, vous vous trompez. Ah. » Évidemment, ce qui se passe là, comme instabilité en Afrique, comme pauvreté, comme défi de sécurité, comme potentiel aussi, comme potentialité de développement avec cette jeunesse qui est intelligente, et qui est extrêmement dynamique, nous concerne. Et le fait qu'un pays comme le Nigeria, je donne cet exemple que j'ai noté sur mon bout de papier, aura dans 20 ans plus d'habitants que les États-Unis. Le Nigeria aura plus d'habitants que les États-Unis dans 20 ans. Ça nous concerne, parce que ces gens doivent avoir des raisons, comme on disait en Savoie autrefois, de vivre et de travailler au pays. Hein. C'est un slogan des écolos il y a 30 ans, donc je m'en souviens. Vivre et travailler au pays, mais ils ont le droit d'avoir cet espoir ou cette ambition. Et je pense que c'est notre devoir de les accompagner parce qu'ils ont ce potentiel. Et voilà pourquoi je comprends et je partage le combat que Jean-Louis Borloo a engagé pour l'électrification de l'Afrique, qui est la base de tout. L'agriculture vivrière, j'ai écrit un bouquin quand j'étais ministre d'agriculture sur ce sujet-là. Je suis libéral, je ne crois pas à l'ultralibéralisme, mais je pense profondément que c'est une erreur des économistes les plus libéraux qui ont plaidé pour cette ouverture des portes et des frontières, pour le libre-échange généralisé, pour la dérégulation, que d'avoir fait croire qu'il suffisait de faire du commerce pour nourrir l'Afrique. Si c'était vrai, ça se saurait. Nourrir l'Afrique, ça commence par la construction d'une politique agricole vivrière dans ce pays comme dans d'autres, notamment où je travaille avec mon épouse qui est Haïti, qui est un des pays les plus pauvres du monde et où la preuve est faite localement qu'on peut fixer une population, lui donner un avenir, lui donner de quoi nourrir, de se former avec un certain nombre de méthodes ou de production. Ça c'est le troisième élément de notre géopolitique pour aujourd'hui et pour demain. Le quatrième élément, c'est naturellement notre relation avec les États-Unis. Et ce que je peux imaginer comme, si nous n'y prenons garde, parce que je pense que ça serait dangereux, une certaine dérive de nos continents, les Amériques d'un côté et l'Europe de l'autre, qui viennent du même endroit, qui viennent de la même culture, qui ont une histoire partagée. Mais la question se pose de savoir si nous allons vers le même endroit, vers le même objectif. Je reste persuadé que c'est notre intérêt mutuel et commun que de travailler ensemble avec les États-Unis d'Amérique tout en se forçant nous-mêmes à être autonomes. En disant ça, je veux ajouter que pour moi, l'alliance qui nous relie aux Américains et qui est très importante à l'Atlantique, qu'elle ne doit pas signifier l'allégeance, comme certains Américains l'ont pensé ou le pensent encore. Les Américains ont changé de priorité stratégique et se retournent désormais davantage vers l'Asie. Je pense que c'est une erreur pour eux d'oublier l'Europe ou de négliger l'Europe, où se trouve avec eux, dans une action commune, une partie des réponses aux défis qu'ensemble nous devons affronter, qu'il s'agisse des défis les plus sécuritaires, la lutte contre le terrorisme et différents groupes islamistes, qu'il s'agisse des défis de la pauvreté, qu'il s'agisse des défis du changement climatique, qui est pour moi le plus grave et le plus durable et le plus profond. Je pense qu'Américains et Européens apporteront de meilleures réponses s'ils apportent des réponses communes à ces défis. Ce n'est pas évident, ni pour les Européens, ni pour les Américains. C'est aussi pourquoi je pense qu'à la fois la rénovation de l'Alliance Atlantique et puis la relation commerciale à travers ce qu'on appelle le TTIP sont des enjeux importants. Puis le cinquième et dernier élément est naturellement par rapport à ce qu'on croyait être définitivement ancré dans la géopolitique mondiale il y a une dizaine d'années et qui ne l'est plus aujourd'hui, le multilatéralisme. Qu'est-ce qu'on fait de ces enceintes multilatérales auxquelles on a beaucoup cru depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a commencé par les Nations Unies, mais aussi l'OMC qui a échoué à aboutir à des accords commerciaux, le FMI, la Banque mondiale, qui vient d'être contestée sévèrement par la Chine, avec d'ailleurs le soutien de l'Europe, on voit bien que ces enceintes multilatérales sont fragiles et que nous devons nous poser la question de savoir si elles sont durables, si on doit les rénover et si nous y sommes influents ou pas. Voilà les cinq éléments, il y en a sans doute d'autres que je voulais vous dire télégraphiquement. Ayant dit cela, je pose une question que vous devez vous poser en tant que citoyen. Dans ce monde-là, qui est si injuste, plus injuste encore, si fragile en raison du changement climatique et de la pauvreté, si instable, et tout cela est lié, est-ce qu'on veut être à la table de ceux qui vont organiser l'ordre ou perpétuer le désordre du monde? On sait ceux qui sont à cette table, les grands acteurs globaux. On sait que les États-Unis y sont depuis toujours, ils pensaient y rester seuls, et c'est évidemment pas le cas. La Chine est là, avec bientôt plus d'habitants que les États-Unis, et devenant la première puissance économique et militaire mondiale. L'Inde, qui aura plus d'habitants que la Chine. Le Brésil, l'Indonésie, dont on a beaucoup parlé ces temps derniers, la Russie qui revient. Voilà des pays, si vous les observez bien sur des cartes, moi je crois beaucoup aux cartes, j'ai publié dans le passé plusieurs atlas qui valent mieux que des discours. Si vous regardez chacun de ces pays, vous observez quoi? Que chacun d'entre eux, ceux que je viens de citer, a une taille suffisante géographiquement, un territoire, population, des ressources naturelles qui lui permet, à lui tout seul, sans demander la permission à personne, d'être à la table de ceux qui vont diriger le monde, organiser l'ordre ou le désordre du monde. Et donc la question que moi je me pose depuis assez longtemps, je vous ai dit que j'avais été gaulliste et c'est De Gaulle qui m'a fait m'engager quand j'avais 14 ans, j'étais dans mon lycée à Albertville, j'ai vu ce personnage incroyable, le contraire d'un politicien qui accueillait le chancelier Adenauer, qui parlait de l'avenir de l'Europe, et qui en même temps faisait des discours incroyables à Phnom Penh ou à Montréal ou en Afrique. Moi, je ne crois pas, mesdames et messieurs, que De Gaulle ou Churchill, qui était un autre géant, ou Adenauer, qui était un troisième géant, aujourd'hui ferait autant de discours sur l'indépendance nationale. Je pense que visionnaires comme ils l'étaient tous les trois, ils n'étaient pas les seuls, mais ils étaient les principaux, je pense que tous les trois feraient plus de discours aujourd'hui sur l'indépendance de l'Europe ou la souveraineté européenne que sur l'indépendance nationale. Et je vais dire les choses autrement, pour en prendre un mot d'un de mes anciens collègues que j'aimais beaucoup à la Commission européenne, Chris Patten, qui était le dernier, je ne sais pas comment appeler ça, gouverneur de Hong Kong. Il disait dans une conférence à Cambridge, la défense de l'intérêt national est-elle seulement nationale? Moi, je ne le crois pas. Je crois que les Français doivent faire ce qu'ils doivent faire pour eux-mêmes et que personne ne viendra le faire à leur place. On peut en parler à propos du déficit ou de des réformes structurelles ou de la dette. Mais pour le reste, dans le monde d'aujourd'hui, si on parle politique étrangère, si on parle défense, si on parle sécurité, si on parle stabilité, lutte contre la pauvreté, changement climatique, on ne peut pas être tout seul. Si on est tout seul, on est foutu, voilà ce que je pense. J'ai mon tableau favori qui a été publié dans un petit document que M. Cameron, qui est Premier ministre jusqu'à demain, on verra ce que jusqu'aux élections, ce qui est la règle du jeu. M. Cameron, j'ai eu à travailler avec lui, avec M. Osborne, son chancelier de l'échiquier, très, très quotidiennement depuis 5 ans, et sur le marché intérieur et sur la régulation financière. Il ne m'a pas toujours fait des documents publics pour me soutenir sur la régulation financière, mais en revanche, sur le marché intérieur, qui est un grand sujet pour les Britanniques, il m'a soutenu activement dans un document et où j'étais cité, j'étais très ému avec des photos, des citations. Et alors, il y avait à la fin de ce document, sur le marché intérieur, ce tableau. Voilà. Ce tableau qui doit être juste, puisque c'est les Britanniques qui l'ont fait. Et donc, ce tableau, il montre tous les 10 ans les 10 pays les plus importants du monde, économiquement parlant. Hein. Il y en a 4 Européens en jaune, 4 sur 28, parmi les 10 premiers du monde aujourd'hui, en 2010. 2015. Et tous les 10 ans, qu'est-ce qu'on constate au rythme actuel de la progression du PIB de nos pays et puis du PIB des autres, qui ne nous demandent pas la permission, qui nous espèrent quelquefois, mais qui ne nous attendent plus jamais dans le monde. Hein. Tous les 10 ans, il y en a un des 4 Européens qui est éjecté du tableau. Et en 2050, c'est votre temps pour la plupart d'entre vous, peut-être le nôtre aussi, avec un peu de chance, hein. En 2050, il n'y a plus un seul pays européen dans le G8. Les 8 premiers, il n'y a plus un seul pays européen. Ni l'Allemagne, ni le Royaume-Uni, ni la France. Voilà. La question, c'est de savoir si on veut que ce tableau devienne une réalité. Moi, je ne crois pas à la fatalité, enfin, sauf s'il y a du fatalisme. On n'a pas le droit d'être fataliste quand on fait de la politique. Enfin, peut-être quand on fait autre chose aussi. Mais en tout cas, moi, je ne crois pas qu'on puisse s'autoriser le fatalisme quand on est dans l'action politique. Sinon, ce n'est pas la peine d'en faire. Donc je pense que ce tableau-là, au-delà de la force propre de ces pays qui se développent par eux-mêmes et qui ne nous attendent plus, qui ne se sont pas contentés comme on l'a cru quand on a renoncé à industrialiser la France et que certains pays européens, on s'est dit il y aura une division du travail, nous allons avoir l'intelligence et puis eux, ils auront les bras, les Chinois, tu parles. Dans ce monde-là, ça dépend de nous d'être à la table. Ça dépend de nous d'être là, avec les autres, pas contre les autres, pour se faire respecter, pour proposer des idées, pour apporter une contribution à ce nouvel ordre mondial, pour défendre aussi, sans complexe, nos intérêts, nos valeurs. Et moi, je vous redis, une deuxième fois, pour que ce soit clair, que si nous ne sommes pas ensemble, nous ne sommes pas à cette table. Si nous ne sommes pas ensemble, nous sommes derrière la table, comme spectateur à regarder ce que décident les autres pour nous. Voilà ce que je pense. Je suis sûr, avec une petite expérience que j'ai pu avoir comme ministre français et comme commissaire européen, en regardant le monde des yeux ouverts. Je suis très frappé, je vous le dis, parce que vous êtes citoyens français pour la plupart d'entre vous, du caractère hexagonal de la politique française. Hein. Moi, je suis revenu à Paris il y a maintenant moins de 6 mois, enfin, il y a au mois de novembre, C'est une faiblesse incroyable de notre pays que d'être auto-centré sur son nombril, que de ne pas regarder ce qui se passe dans les autres pays. D'ailleurs, si on regardait ce qui se passe dans les autres pays plus attentivement, on y verrait des recettes ou des idées pour réduire certaines de nos faiblesses à nous, y compris quand on regarde l'Allemagne, plutôt que de la jalouser. Mais quand on regarde le reste du monde, on doit être européen, mesdames et messieurs. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option d'être européen, en plus d'être patriote. C'est une obligation si on veut être à la table. On peut très bien ne pas vouloir. On peut très bien se dire, on peut être une puissance régionale, pas si mal, mais une puissance régionale, elle sera très vite, si elle ne l'est pas déjà, sous-traitante et sous influence des Chinois et des Américains et des autres. Et moi, je n'ai pas envie que mon pays, l'Europe, soit sous-traitante ou sous influence. Voilà, quand vous regardez dans l'histoire, ce qu'on fait souvent ici, dans votre école, ou l'actualité du monde, et qu'on essaye de, en regardant l'histoire et l'actualité du monde, des autres régions du monde, de caractériser une puissance, on observe qu'une puissance est toujours une économie, une monnaie, une politique étrangère et une défense. Moi, je me bats pour que l'Europe soit puissante, par la puissance ou la force des pays qui la constituent, mais qu'elle soit puissante pour être influente, pour être souveraine, pour être autonome, pour être indépendante. Tous ces mots veulent dire pas toujours la même chose, mais ils vont dans le même sens. Voilà. Et donc je continuerai à me battre parce que c'est le sort de mon pays qui est en cause, que d'être dans un ensemble régional, la région Europe, mutualisé, avec, je conclue par ça, je suis prêt à en parler avec vous, parce que j'étais à l'intérieur de cette maison-là pendant très longtemps, enfin des institutions pendant très longtemps, cette singularité qui explique souvent l'incompréhension ou la distance avec les citoyens, la complexité de la construction européenne. Nous ne faisons pas un État fédéral, même si... certains au départ, Schuman, Monnet et d'autres, en ont rêvé. Il y a des éléments de fédéralisme dans le projet européen, mais on ne construit pas un État fédéral, à l'allemande ou à l'américaine. Il n'y a pas un peuple européen. Nous n'envisageons pas une nation européenne. Nous sommes en train de construire un ensemble politique qui n'a pas de précédent dans l'histoire, qui n'a pas de contrepart dans le monde, d'une région de 500 millions de citoyens qui habitent dans 28 nations, qui parlent 25 langues différentes, parfois incompréhensibles les uns pour les autres, et qui chacun de ces peuples veut garder sa différence, veut garder son identité, veut garder sa culture, une partie de son organisation nationale pour l'éducation ou pour la justice, par exemple. Et donc, il ne s'agit pas de fusionner. Il ne s'agit pas d'effacer les différences. Il faut tenir compte de ces différences, de les respecter, parce que les citoyens y tiennent, surtout en période d'incertitude ou d'inquiétude sociale. Les gens ont besoin de racines, vous le voyez bien autour de vous. Et tout en respectant ces différences et ces racines, on a décidé de mutualiser ces nations, pas de les fusionner, de mutualiser. C'est un mot que j'aime bien parce que je crois que c'est le mot qui caractérise le mieux le projet européen. Donc nous mutualisons depuis 60 ans, sans fusionner, sans mélanger tout. Et c'est pour ça que c'est compliqué, c'est pour ça que c'est pas simple. Si c'est simple, c'est uniforme. Et nous ne travaillons pas une Europe uniforme, nous travaillons une Europe unie, ce qui est assez différent. Donc voilà. C'est ça c'est pour ça aussi que c'est compliqué de prendre des décisions. Là, messieurs, moi, j'ai fait voter 41 lois de régulation financière. Si je n'avais pas eu dans le traité la base juridique du marché intérieur, qui est la majorité qualifiée, si j'avais été obligé de passer par l'unanimité, c'était fini. Je ne faisais rien. Rien du tout. C'est parce que j'avais la majorité qualifiée comme instrument que j'ai pu faire voter parfois à l'unanimité, y compris avec les Anglais, la plupart de ces textes sauf l'encadrement des bonus, mais qu'on a imposé contre eux. Pour le reste, on les a eus à bord, grâce à la majorité qualifiée. Donc ça, c'est compliqué. Ça demande du travail, c'est pour ça qu'il faut des commissaires qui soient au milieu du jeu pour forcer, pour convaincre, pour négocier. Mais il faut expliquer cette complexité, parce que c'est le prix à payer pour que l'Europe soit unie sans être uniforme, pour qu'on préserve l'identité nationale à laquelle tiennent les gens. Voilà, malgré tout ce que racontent les démagogues de gauche ou de droite, et il y en a pas mal, y compris pas toujours à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Voilà, je vous demande pardon d'avoir dépassé mon temps et je suis à votre disposition. Merci de votre attention.